9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les... Il y a personne. Oh, les feignasses.
Oui, dis tout, c'est Charline. Pardon pour la voix, j'ai pris froid ce week-end. Juste pour te dire, ne force pas trop ton talent, on va faire une rédif pour aujourd'hui.
Ah bon?
Consigne de la direction, ne pas trop utiliser d'électricité vu la puissance du froid. À tantôt.
Oh, dis donc, elle est sacrément enrhumée, la pauvre, là, dis donc.
Coucou, Guillaume.
Ah t'es quand même passé.
Oui, on est lundi, donc je passe, effectivement.
Mais genre, tu t'avances pour demain?
Ah ben, je vais déjà m'avancer pour aujourd'hui.
Hein?
Rapport au fait qu'on a une émission aujourd'hui, qui s'appelle Par Jupiter, tu sais, à 17h.
Mais tu viens de me dire qu'on était en rediff pour pas trop siphonner l'électricité.
Quoi? Mais quand est-ce que j'ai dit ça?
Mais là? Ah bah tiens, encore une note vocale, tiens, écoute.
Après ce message, mets-toi en silencieux pour la journée. Ça participe à l'effort national.
Attends, mais c'est qui ça?
C'est toi.
Mais t'es con, t'es sourd. Je suis devant toi, je peux pas te laisser de note vocale.
En tout cas, t'es plus agréable en note vocale.
Ok, donc t'es con,
mais
c'est ça?
Mais regarde, c'est ton numéro.
Mais c'est Juliette qui t'appelle, là, tu vois pas?
Ah, donc elle fait des blagues du 1er avril, le 4 avril. C'est vrai que l'effet de surprise est meilleur. Tiens, il y en a une, tiens, écoute.
Juste un dernier message pour te prouver que je suis bien Charline. Voilà. Voici mon mi bémol. Bim.
Ah, mais avoue quand même que c'est troublant la ressemblance. Hein.
Quoi, c'est affligeant,
oh,
oui,
non,
je
non,
parle
non.
pas du tout comme ça. Tu veux l'entendre, mon mi bémol?
Non, ça va, c'est bon.
Ah, vas-y, passe-moi ton téléphone, allez hop.
Non, mais pourquoi tu veux mon téléphone?
Mais parce que j'ai oublié le mien chez Juliette Banane. Comment tu crois qu'elle t'envoie des vocaux avec mon numéro?
Bon, d'accord, tiens.
Allez, j'y vais. Bon, maintenant, finis de rigoler, Juliette. T'as intérêt à être là dans 15 minutes à ton bureau, sinon t'es virée.
Oh là, ouais, c'est chaud.
T'as reconnu l'imitation?
Non.
Eh ben, c'était Bruno Le Maire. Comme quand il menace les GAFA, là, tu sais.
Ouais,
je le tiens bien, mon Bruno Le Maire, parce que la dernière fois, j'ai fait marrer mes parents à table.
S'il y a bien quelque chose d'inimitable, c'est l'aveuglement des parents vis-à-vis de leur enfant. Hein.
France Inter et bienvenue chez les petits orfèvres de la poilade. Voici la citation du jour. Elle m'a dit d'aller siffler Sarkozy là-haut pendant le meeting. Zaï, 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 zaï. Voici le sommaire. En Russie, l'humour est une arme contre la propagande. Avec la dictature et le conflit, les vieilles blagues qui couraient à l'époque de l'URSS sont remises au goût du jour. Plus les temps sont durs, plus l'humour noir prospère.
Ce qu'il faudrait, c'est une bonne guerre.
Le programme Artemis est en théorie parfaitement limpide, remarcher sur la Lune et y construire une base avancée vers Mars. En pratique, c'est sans doute un peu plus vague, mais la beauté de la chose, c'est que le programme est une initiative de l'ex-président Trump. Une réaction, monsieur Biden?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Imiter une voix permet de pratiquer l'arnaque, voire de braquer une banque, comme il y a 2 ans aux Émirats Arabes Unis, quand un employé a transféré 35 millions, croyant avoir reconnu un client fidèle.
Ah oui.
Et pour imiter une voix à la perfection, l'intelligence artificielle est redoutable.
Allô, monsieur Pivert, le commissaire.
Non, mais je reconnais votre voix, monsieur le commissaire. Comme je suis content de vous entendre.
Et moi donc.
Et aujourd'hui, à mes côtés, son rire est inimitable, ce Juliette Arnaud.
Bonjour Charline, et en l'honneur de notre invité, une équipe d'inimitables. Il y a des gens qui ont essayé de l'imiter, lui, ses tatouages, sa voix de rocaille et la taille de ses poings. Eh ben, ils ont eu des problèmes. Chewbacca, mes salutations respectueuses.
J'aime bien votre voix quand vous faites Charline, je trouve ça super. Vous auriez dû me lancer comme ça. Aujourd'hui, on va parler de Tikaniki du Maloya, mais de Lyon.
J'ai absolument rien compris.
Ça, c'est inimitable.
Mais c'est le Maloya de Lyon.
Ne le faites pas chez
nous. Le suivant imite Socrate. Il se voit comme un accoucheur d'âme, mais dans la rue, les gens le confondent avec Christophe à l'évêque. Mon Dieu, que la vie est ironique.
C'est moche.
Bonjour quand même.
Bonjour quand même. Rattrapage du temps de parole de 2 candidates aujourd'hui, Nathalie Arthaud et Valérie Pécresse. Et ben, je suis allé aux 2 meetings voir des militants qui étaient déjà un petit peu perdus.
Je me suis trompé, je voulais aller chez Pécresse, mais je me suis gouré, je suis trouvé là.
Oui, alors attention, ça rend 2 salles, 2 ambiances. Hein. Ça s'est passé une mauvaise après-midi.
Enfin, celui qui craignait de ne pas être suffisamment repérable avec ce prénom porté par tous les garçons de sa génération, Thomas, enfin tous ceux qui ne s'appelaient pas Sébastien. Alors il a décidé de se foirer délibérément sa coupe de cheveux. Bonjour Thomas VTP.
Bonjour, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et donc, je suis très content.
Allez,
et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler des cabinets de conseil parce que. On en a pas mal parlé ces derniers temps et je trouve ça assez intéressant.
Ouais, et voici celui qui est plusieurs à lui tout seul. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes
Didier Gustin. Bonjour.
Oui. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
par Jupiter.
Bienvenue Didier Gustin.
Par Jupiter.
Ah voilà.
Ah non, j'ai envie de le dire. Hein, oui. Puis alors, Charline, voir Charline pour la première fois en vrai avec un flash code sur le.
Ah c'est, ça un, pull, c'est un peu un pull QR code.
Ah, c'est un pull QR code. Vous avez.
Mais non, c'est un motif de Noël.
Vous avez. De Noël.
Ah bah c'est un pull de Noël hein.
Bon alors le sujet hein. L'émission. Le sujet hein, c'est sur mon pull visiblement. Alors que non, pourtant joli, hein. Didier Gustin, merci Didier, est actuellement en tournée en France par exemple avec une pièce de boulevard intitulée Les Cachotiers.
Oui,
vous tournez notamment avec Thierry Beccaro et récemment vous avez aussi donné un spectacle pour votre entente carrière, Il était une voix.
Ouais.
Donc on est heureux de vous recevoir pour vos quoi presque 35 ans de carrière déjà Didier Gustin.
Ah ouais bah j'ai commencé, j'avais 19 ans, donc du coup, effectivement... Je suis très content de ce chiffre, finalement, parce que ça m'a permis de faire plein de choses. Évidemment, des imitations, du théâtre, du cinéma, de la radio, de la télé, tout ça.
Des documentaires aussi, vous avez travaillé avec Carl Zéro et Michel Royer.
Oui.
Je me demandais d'ailleurs, en travaillant avec Michel Royer, qui est quand même un pape du documentaire et fait plein de bons documentaires sur les politiques, etc. Je me disais, est-ce que c'est vous l'imitateur dont la voix peut être vraiment la plus fidèle à celle de certains politiques? Parce qu'il utilise notamment votre voix pour, quand il n'y a pas les archives, pour combler phrases off ou des choses comme ça.
On m'a même demandé, même pour des films, un artiste était malade, on dit, Didier, viens, faut que tu fasses le doublage de cet artiste.
Oui, faut des voix pour le cinéma, pour des longs métrages qui ont besoin de voix de politique. Est-ce que vous
Même des voix des vrais acteurs, pas des acteurs politiques. Ouais.
Et donc il y a une clause de confidentialité.
Oui, complètement.
Ah, ouais, voilà. J'allais vous demander qui, mais.
Et alors les gens disent, là c'est ma voix.
Mais
c'est
pas lui.
Il y a prescription. Vous pouvez le dire.
Oui, dites-le.
Oui, c'était pour le film La pharmacie de garde avec Depardieu, mais c'était pas Gérard, c'était son fils. Donc pour Guillaume. Guillaume était malade et du coup j'ai fait sa voix.
Mais non, parce qu'il y a des imitateurs qui surjouent un peu la caricature pour faire rire, ça peut arriver aussi. Mais vous êtes capable d'imiter extrêmement fidèlement.
J'ai essayé. De reproduire. Mais bon, ce sont peut-être des balivernes, des pulvesets.
Ça marche, c'est ouf comment ça marche.
En fait, c'est ça l'idée, tu vois. L'idée, c'est d'essayer d'être à la fois dedans et avec quelque chose de poétique, quelque chose qui vous regarde, qui vous touche. C'est bon. Hein.
Est-ce que la voix de Chirac comptait dans le temps de parole de Valérie Pécresse?
Merde, c'est là qu'il faut de lui foutre en l'air. Il faut faire 11 autres, Didier. Ça va être chaud. Est-ce que vous êtes soulagé à l'idée peut-être de pas devoir imiter les politiques actuelles? Parce qu'est-ce qu'ils sont pas difficiles à imiter?
Ouais, c'est vrai, non, mais en plus, ça m'intéresse pas, en fait. Ouais. Je suis pas très intéressé par
Macron, il est dur à imiter, non?
Oui, c'est vrai.
Un
peu blanche, quoi.
Ouais.
Voilà.
Vous préférez le musical, aussi, vous préférez les
chanteurs,
les artistes.
Surtout les chanteurs, j'ai beaucoup de chanteurs. De chanteurs, des acteurs, et puis, voilà.
Et puis, Stéphane Bern, je suis tellement content de revenir à France-Saint-Pierre. C'est bon.
Ça, c'est un soutien de Macron, donc là, c'est bon, on équilibre.
C'est vrai. Comment j'ai équilibré? Je vais vous faire tout à l'heure Bernard Lavillier pour équilibrer avec Mélenchon.
Est-ce que la qualité de l'imitation peut sauver une vanne, par exemple? Parce que dès que vous ouvrez la bouche et que vous faites une imitation, pourquoi est-ce qu'on rit tout de suite? C'est fou, vous accrochez des exagérations, vous...
Oui. C'est quoi votre secret?
Quel est le secret de fabrication? Nous allons m'entendre. Oui, je sais pas.
Il y a une magie là-dedans, on rit tout de suite, c'est fou.
Non mais c'est vrai, il y a toujours le moment, on s'imagine l'imitateur travailler chez lui, devant sa classe, devant sa salle de bain, et c'est vraiment comme ça que ça se passe ou pas?
Pas du tout, non.
C'est plutôt avec un magnétophone. En vous écoutant, vous réécoutant.
En fait, moi, je ne m'écoute pas. Mais en revanche, j'écoute beaucoup. J'écoute pas. Un jour, je suis allé voir, et puis ça peut aller très très vite, un jour, je suis allé voir le film, vous vous souvenez, Uranus avec Depardieu, tout ça. Je suis sorti avec la voix de Marielle, de Noiret, de Depardieu. Je suis
sorti avec la voix de Noiret. C'était un bonheur.
Parce que vous pouvez lire le bottin avec vos voix, et on rigolerait. Mais c'est fou.
Non, mais c'est vrai que c'est déjà un argument. Et puis après, évidemment, si tu rajoutes un petit peu des textes un peu marrants, c'est cool, quoi.
Est-ce que
qu'avec la, on parlait de politique, hein, avec la parité, il y a de plus en plus de femmes. On parle aussi de plus en plus de parité chez les réalisatrices, etc. On est, on fait attention à tout ça. Alors, est-ce que imiter les femmes, ça doit être un terrain que, où les hommes sont présents aussi? Vous imitez des femmes?
Ah, plus pas vraiment. Non, j'ai surtout, ouais, au départ, à mes débuts, je faisais un peu France Gall. Après, j'ai fait un peu Maïté, mais c'est tout, ouais. Je sais pas si ça compte.
Maïté, non, je pense pas.
Mais ça compte dans le temps de Giscard. Ouais. Vous arrivez plus à choper les aigus?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup plus de graves maintenant qu'avant.
Ok.
Donc pour le rire de Juliette, ça va. Mais pas pour sa voix. Ouais, voilà.
Je ne ris pas comme ça. Retirez ça de suite.
Pardon, je retire tout de suite.
Non, mais c'est vrai, par exemple, en politique, il y a de plus en plus de femmes. Donc c'est peut-être pour les imitateurs un terrain, comme il n'y a pas beaucoup de femmes. Il faudrait qu'il y ait la parité chez les imitatrices et les imitateurs.
Oh, oui, il y a quelques imitatrices qui sont vraiment bien. Sandrine Alexis, elle fait des voix super. Ouais. Vicaire et... aussi.
Ouais.
Je sais plus sur son prénom.
Véronique
Dicker. Véronique Dicker. Voilà, on a quand même des, enfin, sont quand même costauds, les deux-là.
Oui, mais il n'y a plus le support, donc.
Oui, c'est ça.
En fait, comme il n'y a plus ni le Bepeccio, ni les guignols c'est de l'info, ça,
Ça passe inaperçu, puis voilà. Et comme, on entend surtout des imitateurs hommes à la radio, du coup, évidemment, on se dit, tiens, il n'y a plus de femmes, comment ça se fait?
Et est-ce que vous écoutez les autres imitateurs, comme les dessinateurs de presse parfois font ça, regardent le trait un peu les autres?
Non, mais en revanche, des trucs qui me font marrer chez les autres, évidemment.
Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais.
Mais sinon, non, j'adore. En fait, moi, je suis chez moi, tranquille. J'ai pas la télé. J'écoute, tu vois, je me mate des films et puis je chope des chants comme ça ou des concerts. Je suis allé voir le spectacle de Phil Collins. Je suis revenu avec la voix de Phil Collins. C'est drôle, tu repars avec. Tu dis, laisse, je vais la prendre.
Vous avez la voix de Betty Davis ou pas? C'est ce qu'on va écouter.
Je prends.
Didier Gustin est avec nous. Si vous voulez le voir avec sa vraie voix dans Les Cachotiers, il sera le 10 avril à Pradines et le 23 à Saint-Marie-sur-Mer, par exemple. Et
dans que des capitales. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a rhythm. My great-grandma didn't like a foxtrot. Now instead she spit it, snuff and boogie, damn on drain. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Get it on. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. And when I kick my legs, oh, I got real fun. My great-grandpa was a blues lover. He be rocking his moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop.
Talk about it, talk about
it. I'm talking about Lightning Hopkins.
Betty Davis sur France Inter, programmation musicale de
Djoubaka qui est là,
Djoubaka.
C'est pas vrai, ouais. Qui est là, et il est avec d'autres gens qui sont différents, comme Thomas VDB, et bien sûr, le plus différent de tous, Guillaume Meurice.
Oui. Et Didier Gustin en notre compagnie, et ce journal.
Français, français.
Je voudrais regarder la France au fond des yeux.
Le journal de presque 17h17.
Mon cher et vieux pays, nous voilà donc encore une fois ensemble.
Je suis quand même ennuyé que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Et on commence par les titres.
Philippe Poutou a accusé Emmanuel Macron de vouloir faire bosser les gens plus tard et plus tôt.
Quoi ? Emmanuel Macron est de droite ? C'est pas possible, Charline, je ne l'avais pas vu venir.
On parlera aussi de Nicolas Sarkozy qui n'était pas au meeting de Valérie Pécresse.
Non ! Nicolas Sarkozy a trahi, mais non ! Le monde est plein de choses.
Et
de choses.
Enfin, on parlera de Véronique Geneste qui soutient Éric Zemmour.
Oh là 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 là, Véronique Geneste est facho ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? La surprise est totale. Ah, j'ai tout mis là, en Acteur Studio, j'ai tout mis. Et on commence par la politique.
Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Je ne me résoudrai jamais à ce que l'on puisse faire des économies au détriment des plus modestes, tandis que d'autres fraudent, c'est injuste. »
Non, c'est Poutou qui a dit ça.
Ah non, ça c'est Macron.
C'est
ça.
Macron, vous êtes sûr?
Ah oui.
Mais il est de gauche en fait alors Macron.
Il a même déclaré, je cite, « Nos vies valent plus que tous les profits », slogan qui a été utilisé par le nouveau parti anticapitaliste.
Mais c'est incroyable, mais ça y est, mais Macron est devenu de gauche.
Attendez,
c'est une bonne nouvelle.
C'est
une super nouvelle, Charline.
Hein?
Ben quoi?
Bah il a baissé les APL, supprimé l'ISF, défiguré les gilets jaunes, il veut la retraite aux 65 ans.
Ouais.
Il y en a un peu plus où je vous le mets quand même?
Non, c'est bon, j'ai pigé.
D'accord, ok. Allez. Ce matin sur France Inter, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. »
C'est vrai, il a déclaré qu'il fallait envoyer les élèves de 5e en apprentissage. Après, c'est pas de sa faute si les élèves de 5e, ils ont 12 ans. On ne peut pas être responsable de tout.
Lors du meeting de Valérie Pécresse, hier à Paris, Nicolas Sarkozy a été hué par une partie du public.
Quelle indignité. Vous rendez compte, Mme Van Notecker. Voilà, c'était juste pour faire une imitation de mon Didier Gustin.
Ça, c'est bien.
Ah, allez, ça calme allez, un allez, peu. Allez, allez, ah, bon. Bah voilà, j'ai bossé.
Je peux sortir?
Lors de son meeting, Anne Hidalgo s'est adressée aux électeurs de gauche en déclarant, je cite, « Emmanuel Macron ne vous calcule même pas ».
Ben, c'est de quoi elle parle, parce que pour elle, ce sont les électeurs de gauche qui la calculent pas du tout. Enfin.
Et puis, Éric Zemmour a été expulsé de la salle de foot de Noureddine Zidane, le frère de Zinedine, car les Zidane ne souhaitent pas être instrumentalisés par l'extrême droite.
Ça a dû lui faire tout bizarre, Éric Zemmour, de se faire expulser par un arabe. C'est vraiment une sensation qui a
Sur
dû lui plaire.
Sur Twitter, Booba a retweeté Éric Zemmour en commentant Bravo Monsieur Zemmour, message à nouveau retweeté par Véronique Geneste.
Oh là 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 là, Booba, Éric Zemmour, Véronique Geneste. Il manquait juste Francis Lalanne, vous aviez les quatre cavaliers de l'apocalypse. Là,
une étude IFOP Opinion pour camping.com, c'est une vraie info, c'est un vrai sondage, révèle que pour 25% des Français, Jean Lassalle serait le meilleur partenaire de grillade au camping devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
La tuile pour Fabien Roussel qui avait vraiment tout misé là-dessus,
vrai,
toute sa campagne sur les merguez.
Et puis un sondage Ipsos révèle que si les Belges votaient à l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron serait largement élu.
Bah évidemment, tous les Belges de gauche, ils sont en France. Et du coup, là-bas, il n'y a plus personne, il y a juste Alex qui fait les allers-retours, donc ils sont de droite, en fait.
Et donc, voilà. L'ARCOM, le nouveau nom du CSA, tape sur les doigts de RTL, C8, CNews, France Inter, France Info et France Culture pour une surreprésentation d'Éric Zemmour.
Quoi ? On aurait trop vu Éric Zemmour dans les médias, mais c'est pas vrai, Charline, mais j'en tombe de ma chaise.
Oui, bah c'est ça, bah tombez de votre chaise, Guillaume.
Non, mais là, c'est la radio, donc je fais style, je tombe
oui,
de ma chaise.
Ouais, mais la radio est filmée, donc déjà que vous jouez mal au son, jouez-le au moins jusqu'au bout.
Bon, bah je tombe de ma... Voilà.
Oh, voilà, comme ça, vous avez l'air bien ridicule.
Je suis tombé de ma chaise.
Pour revenir, parce qu'il y a une dernière info.
Je me suis fait mal.
On termine. Être musicien permettrait d'avoir un meilleur accent dans une langue étrangère.
Et ça, c'est vrai, parce que regardez-moi, je joue de la guitare et I speak English very well. I am bilingual. Fluent. I am, isn't it?
Écoutez, si vous êtes convaincu, c'est l'essentiel.
Yes.
Merci.
Yes, it is.
Guillaume, Didier Gustin avec nous. Et ce premier thème, en Russie, la guerre a ravivé l'humour noir et multiplié les blagues, en particulier les histoires drôles qui circulaient au temps de l'URSS. Elles sont remises au goût du jour. Les blagounettes antidotes à la propagande, armes du désespoir, petits plaisirs de la transgression, bref, même en temps de guerre, l'humour aide au moral des troupes.
Pourquoi ce rire bête ?
Parce que si j'ai bien compris ce coup-là, si je saute, vous avez 600 millions à sauter avec moi.
Vous êtes vraiment la brute.
Excusez-moi, mon colonel, mais... Vous savez, une brute, ça ride à rien. Un missile qui passe, un champignon qui monte dans le ciel, le temps de Bangkok qui passe au-dessus de Billancourt. Je me marre de tout, j'ai des goûts simples.
Et les Barbouzes, film de Georges Lautner. Donc il y a beaucoup de blagues qui se faisaient au temps de l'URSS qui sont remises au goût du jour. Il y en a des nouvelles aussi, comme celle-ci citée par Le Monde, qui consacre un article à ce thème. Moscou a proposé à Kiev d'organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Selon des sources non officielles, les travaux pour la construction de la table ont déjà commencé. Voilà le genre de blague. Didier Gustin, ce lien entre la guerre et le rire, il peut paraître indécent, comme ça, brûle pour point. Est-ce qu'il vous semble évident à vous ou pas ?
Oui, bah, je pense qu'on est tout le temps, on est toujours en train d'essayer de se marrer des choses qui nous font du mal ou qui nous font, c'est ça, faut toujours mieux rire de quelque chose que d'en pleurer, quoi. Donc voilà, quand on pleure beaucoup, au bout d'un moment, quoi, on a envie de se marrer. D'ailleurs, les médecins, les chirurgiens aussi qui sont confrontés à la souffrance, à la mort, ils sont tout en train d'essayer de trouver des exutoires. Ouais, voilà, ouais,
ouais. Et l'humour carabin, comme on dit, l'humour des médecins. Ouais. Dans les périodes de tension, est-ce que vous pensez que votre art, qui consiste à faire rire, a encore plus de sens? Quand la période est tendue.
Ah ouais, je pense. Oui, je pense. Et puis là, par exemple, vous, c'est voilà, c'est du.
Ah bah nous, plus c'est la merde, plus on est content.
Ben ouais, c'est
ah
ça. Bah,
alors là, on se régale.
Tiens, il y a vous et puis les chaînes d'infos, les grosses chaînes d'infos. Là,
on regarde le journal le matin. Oh,
voilà, oh c'est bon. Excellent. Un avion qui est tombé, c'est génial. Et tu fais la vanne, Thomas. Sur la vanne, sur le.
Vanne de crash.
Ah voilà.
Vanne de crash aérien.
Ah, génial, vanne de crash.
Mais ça vous arrive dans des moments peut-être dans la vie où vous sentez qu'il peut y avoir une tension ou pour créer du lien d'utiliser ce vecteur-là de l'imitation et de l'humour ou pour vous départir d'une situation ou...
Ah oui, moi je suis tout le temps, en fait, je suis tout le temps en train de déconner, moi, tout le temps, mais pas forcément avec des voix. Voilà, de rigoler, et puis de, voilà, j'essaye de faire marrer les gens toujours autour de moi avec n'importe quoi, comme toi tout à l'heure quand t'es tombé lamentablement hein, ouais, de ta chaise.
C'est une école de cascadeurs.
Mais c'était bien.
Ah,
hein.
C'était pas mal.
Ah ouais, ouais franchement.
L'article du Monde dit aussi que le renseignement américain récoltait toutes les blagues au temps de l'URSS.
Ah ouais,
ah ouais parce que ça en disait long aussi sur la perception que pouvait avoir la population des dirigeants, de la situation, etc. Si aujourd'hui on devait récolter un peu toutes les blagues qui se font sur la société et la politique, quelle perception on aurait de notre société, notre politique.
Peut-être de la société, je pense que c'est la société, elle est très... Enfin, quand on regarde un petit peu, par exemple, la télévision, on a des tribunaux tout le temps, ce ne sont que des émissions où il y a des tribunaux où on juge des gens qui cuisinent, on juge des gens qui chantent, ouais. On juge des gens qui font...
Même qui font de l'humour à l'époque de Ruquier.
Qui font de l'humour, et en fait, on est dans des tribunaux, tout ça, et quand on regarde des gens chanter, voilà, et on montre aux gens que chanter, c'est juste se retenir des paroles. Si vous voyez l'émission de Nagui, c'est juste retenir des paroles. Et en fait, le mec, il chante comme un sac, mais ça fait 6 semaines qu'il gagne.
Et t'as des enfants qui regardent.
Non, mais c'est pas grave. Et t'as des enfants qui regardent et tu leur dis, tu vois, c'est ça, chanter. Il faut retenir les paroles.
Mais déjà, à l'époque, Juliette, quand elle présentait Interville, il y avait de la compétition, il y avait Mont-de-Marsan contre Perpignan.
Ça, c'était vraiment une balle perdue.
Pour en arriver là,
il y avait une balle perdue comme ça, alors qu'on était parti de la guerre et de l'humour. Eh ben, c'est pas très, très joli, joli. Heureusement, Didier Gustin est avec nous et aussi Djoubaka pour nous parler musique et nous emmener vers l'ailleurs. Bien sûr.
Bah, je vais essayer de faire joli, joli alors.
Bah ouais. Ah. Ouais,
alors, vous savez, de temps en temps, on découvre des rythmes, des musiques de façon assez inattendue. Alors, moi, j'ai découvert le Maloya, la musique emblème de l'île de la Réunion, il y a plus de 20 ans, grâce à Jean-Louis Brossard, le patron des trans musicales de Rennes. Donc, je lui rends hommage. On était dans un festival du nord de l'Europe, en plein hiver, à scailler les miches entre deux concerts, et histoire de se réchauffer les esgourdes et les pieds, il m'a fait écouter Reste à la Maloya, interprété par Daniel Ouaro, un classique de chez Classique. Alors je nous revois vraiment comme ça au champ de la casquette et du bonnet, avec 1 mètre de neige autour de nous. Moi j'étais entre deux mondes, donc les panards chez les Vikings et le cerveau dans l'océan Indien. Et au moment où j'ai entendu pour la première fois de la Maloya, j'ai su que ce rythme, en fait, les instruments, les chants qui oscillaient entre le sacré et le profane, allaient me suivre pendant un bon moment, et en fin de compte c'est le cas, hein. Donc vient de sortir le premier disque de Tikaniki, je fais attention parce que je suis dyslexique. Donc un collectif qui a posé ses valoches à Lyon et qui réunit en fait 8 musiciens et musiciennes qui chacun, chacune à leur tour vont jouer d'un instrument ou chanter sans se poser de questions de hiérarchie. Donc c'est vraiment la définition du collectif, du tous ensemble. À mon avis, ils sont dans les clous là pour les 15 jours qui arrivent, quoi. Et ça démontre aussi les possibilités vraiment inépuisables de cette musique. Alors le Maloya est né avec les esclaves qui trimaient dans les plantations de sucre et de café de l'île de la Réunion. Et la nuit, caché dans les champs, loin des regards et des oreilles de ces femmes et ces hommes qui étaient asservis aux grands propriétaires, se retrouvaient
Ils se retrouvaient tous pour jouer cette musique lors de cérémonies qu'on appelle les kabars, en fait. Alors, il y a un aspect spirituel dans ces moments de musique, puisque ça permet de rentrer en contact avec les ancêtres d'un point de vue profane. Et puis, il y a un point de vue profane, ou alors c'est un espace, en fait, où on laisse parler les peurs, la tristesse et les envies de liberté. Et le maloya est la musique de ceux qui n'ont pas droit au chapitre. Il y a un esprit de rébellion vraiment permanent dans cette musique. Et dans les années 50, l'administration française voit d'un très très mauvais œil cette musique et toutes les revendications politiques, sociales, culturelles qui peuvent émaner des kabars. Et le maloya est interdit, en fait. Et l'État espère vraiment le voir disparaître, et avec lui quand même des idées d'indépendance qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais pas de chance pour nos dirigeants, c'est foiré. Il va continuer à exister vraiment de façon clandestine, en fait. Il perdure, il se transmet de génération en génération. Mais bon, il faudra quand même attendre 1976 pour qu'il y ait un premier disque qui sorte. Donc, quand on connaît son histoire, la façon dont il se développe aujourd'hui, la capacité de cette musique à se métisser avec d'autres sons, il est vraiment impossible d'écouter du maloya sans y percevoir le désir de liberté qu'il entraîne. Alors, Tika Niki, au départ, c'est un collectif d'artistes qui se sont pris d'amour pour cette musique. Pendant 7 ans, ils ont fait que du live, ils ont organisé des kabars, ils ont appris patiemment et ensemble les classiques du répertoire. Ils ont ajouté et appris à ajouter sur des instruments qui leur étaient vraiment inconnus. Et Tika Niki rassemble des musiciens réunionnais de métropole d'Afrique. 12, c'est le titre de leur nouvel album. Ça s'écrit D-O-U-Z, pas comme le chiffre. Il y a 10 titres où chacun trouve sa place, passe le relais aux autres, comme dans un cercle en fait qui n'en finit pas. Et vous imaginez bien que cette égalité-là, cette idée d'égalité à tous les étages dans la musique, c'est vraiment très rare. Et en fait, chez eux, ça s'entend, cette liberté et cette égalité. Il y a une sorte de générosité qui transpire de ce disque, et leur complicité, finalement, elle a un son. Donc, 12 en créole réunionnais, c'est le mot qu'on utilise pour clôturer une cérémonie, le kabar. C'est la fin de la transe, on est tous en haut, et ce mot annonce aussi qu'il y aura une prochaine fois. Alors, on écoute Molène, chantée par Cindy Pouch ou Poch, je ne sais pas, en langue banane, ça c'est sûr, comme celle parlée au Cameroun.
Minusi
Le groupe, il s'appelle Tikaniki, vous avez tout compris. 12, c'est le nom de l'album, c'est déjà sorti. Et franchement, il faut l'écouter. Quoi.
C'est très beau. Très, très joli. Merci, Djoubaka, pour ce choix musical. En compagnie de Didier Gustin, qui est
qui a beaucoup
nous.
Aimé.
Ah ben voilà, c'est validé.
Ah ouais, grave, c'est super. J'adore La Réunion. C'est, un, voilà, moi, c'est mon île préférée.
Ah oui,
ah ouais. C'est vrai. Ah ouais,
vous n'aimez souvent. Pas la Corse. Eh bien, c'est noté.
C'est pas une presqu'île. Je suis très mauvais en géo. C'est pas une presqu'île.
Celui qui vient de vous mettre dans la mouise, c'est Guillaume Meurice. Et je vous en prie, Guillaume, vous avez le micro, gardez-le.
Bah, aujourd'hui, on va pas perdre de temps parce que du moment du temps, j'en ai à rattraper pour 7 candidats et candidates d'ici jeudi. Alors aujourd'hui, on va parler de la candidature de Valérie Pécresse et Nathalie Arthaud. Alors je les ai groupés parce qu'il y a des gens qui hésitent entre les deux, entre Arthaud et Pécresse.
Sûrement.
Oui, c'est les mêmes qui disent. Ah, j'hésite entre un massage des pieds et m'épiler le maillot à la tronçonneuse. Il y a des gens qui n'arrivent pas comme ça à faire des choix. Alors, je dois diffuser 1 minute 20 de soutien des deux candidates. Donc, je suis allé aux deux meetings hier. Mais alors, qui est qui? On ne sait pas, petit quiz.
C'est une femme courageuse. C'est assez difficile dans le courage parce que quand une femme va rater quelque chose, on va lui dire « elle est là parce que c'est une femme ». Alors que quand un homme est incompétent, on va juste dire bah voilà.
Alors, c'est au meeting de qui? Bah on ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire le CSA avec ça? T'es dans la merde, t'es dans la merde. Allez, je vous aide un petit peu. C'était pas simple, mais il y a des indices.
Il y avait différents intervenants, les Gérard Larcher, Bruno Retailleau.
Et alors un absent de Marc. Il y avait pas Nicolas Sarkozy.
C'est vrai. Bah Sarkozy, c'est peut-être pas la droite la plus exemplaire qu'on ait eue. Hein.
C'est pas vrai.
Si, je vous jure.
Sarkozy magouillerait.
Bah. Le pouvoir corrompt.
Voilà, oui, voilà, on va dire ça. Alors, je rappelle que les silences comptent dans le temps de parole. Hein, c'est pour ça que je les laisse. Le pouvoir corrompt, et c'est le pouvoir hein, qui a transporté les mallettes de billets. Il y avait les corrompts, ouais. Je vais prendre Didier Gustin comme co-auteur. Voilà, donc il y a le pouvoir. Voilà, le pouvoir, c'est le surnom de Claude Guéant, en fait. Hein, c'est pour ça. Alors, est-ce que le pouvoir va corrompre Valérie Pécresse?
Je pense qu'elle a une certaine forme d'honnêteté. Hein.
C'est quoi une certaine forme d'honnêteté par rapport à de l'honnêteté
Bah, de l'honnêteté pure et dure, ce serait d'appliquer à son programme, même ce qui ne colle pas à la réalité. Hein.
Qu'est-ce qu'elle n'appliquera pas dans son programme si elle est élue?
Je me suis jeté dans le piège, peut-être.
Oui, peut-être. Je dirais qu'il m'a même fourni la peau de banane. Il m'a dit, tiens, voilà, tu peux la mettre sous mon pied, s'il te plaît. Ce qui est un peu la technique de Sarkozy, finalement. Alors, Sarkozy qui manque à l'appel. Hein.
Monsieur Sarkozy, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez clarifier la situation?
Mais ça serait peut-être pas un atout, finalement, de l'avoir avec vous. Parce que c'est quand même un délinquant, c'est quand même un repris de justice.
Ah ben, tout à fait. Alors... Faut que je fasse attention, hein, parce que c'est vrai que...
Non, mais c'est vrai qu'il a été condamné aussi.
Oui, alors je suis pas tous les dossiers, excusez-moi.
Oui, bah, vous êtes pardonné, de toute façon, il y en a tellement, il y en a un qui sort tous les deux jours, donc tous les juges sont en burn-out, donc il n'y a pas de souci. Mais on a peut-être l'explication de pourquoi il n'était pas là.
C'est vrai que, bah, apparemment, on m'a dit ça tout à l'heure, qu'avec un gars avec un bracelet au pied, il peut pas venir ici. C'est peut-être pour ça qu'il a pas pu venir.
Et ben voilà, il aurait bipé pendant tout le meeting et ça aurait été relou, quoi. Les meetings de droite, c'est carré, c'est bien organisé, faut rien qui dépasse. Allons voir du côté des militants de lutte ouvrière, qui était hier au Zénith de Paris. Alors, c'est peut-être un peu moins carré.
On s'est quand même planté pour venir ici, mais bon...
Vous êtes trompé de route?
Ah bah c'est pas moi, c'est le chauffeur. Il nous a fait passer, on a refait un grand tour, on est revenu en arrière.
Mais est-ce que ça, c'est pas une métaphore de la gauche?
Et la gauche, c'est pour moi, la gauche, c'est quoi? Mélenchon, même Mélenchon, je suis pas sûr que c'est de la gauche.
Alors... Là, on est sûr qu'on a un meeting de lutte ouvrière. Il n'y a vraiment que là que vous pouvez entendre ce type de phrase. Ou peut-être un meeting de Poutou. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre Poutou et Arthaud, idéologiquement?
Bah, la différence, nous, c'est qu'on défend les intérêts des travailleurs. On estime que tout passe par les... Enfin, que
Poutou, il dit plus ou moins la même chose.
Alors, Poutou, il dit plus ou moins la même chose, si vous voulez. Sauf que nous, on est sur le... Comment dire?
Oui, c'est pas simple.
Non, je sais que c'est pas simple.
C'est pas fastoche. Alors, tous ensemble. Ouais. Mais il y a des différences. Pourquoi Nathalie Arthaud plutôt que Philippe Poutou?
Parce que Nathalie, quand elle va à un meeting, elle porte des chaussettes. Hein.
Qu'est-ce qu'elle a comme chaussettes?
Là, j'ai pas vu, mais elle porte toujours des chaussettes.
Toujours des chaussettes. Hein. Et les autres, non?
Poutou, quand je l'ai vu la dernière fois en 2017, il n'en portait pas.
Pas de chaussettes?
Non, pas de chaussettes, terrible.
Mais c'est quoi, il est anti-chaussettes alors?
Moi, je pense qu'il sue des pieds.
Oui, c'est vrai. Philippe Poutou sue des pieds. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un président qui sue des pieds? Eh bien, ça, c'est le peuple souverain qui va s'exprimer, à moins qu'il y ait une lutte finale, non? C'est pas ça qui est prévu?
Non, pas aujourd'hui.
Ah, c'est pas aujourd'hui.
On se prépare.
Et le grand soir?
On se prépare, là. Il y a le grand soir, c'est une connerie, en fait.
Ah bon?
Il n'y a pas de grand soir.
Ah. Ben, moi, j'étais prêt, moi.
Mais c'est bien.
Ouais, c'est pas ce soir alors.
C'est pas ce soir. Là, on peut aller boire une bière ce soir. Mais
bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Allez, on prend, hein, on reste dans la thématique de cette campagne qui commence quand même à pas mal saouler tout le monde.
Guillaume Meurice, merci. Donc le coup des chaussettes, c'est comptabilisé en fait.
Assez du temps de parole de militante Nathalie Arthaud. Donc et c'est comptabilisé. 1 minute 20 pour tout le monde. On est bon, on continue
Guillaume,
demain.
Vous travaillez doublement en plus. Vous êtes obligé de faire tous les meetings.
Passe
deux
un bon
meetings
dimanche
par
après-midi,
jour.
Je peux vous le dire.
Mon pauvre, que de sacrifices. Merci Guillaume. Juliette Arnaud, vous allez suggérer à notre invité Didier Gustin un sujet dont il a suggéré le thème, on va dire.
Marcher à nouveau sur la Lune, comme en 1969, avec encore plus de monde en situation de suivre ça en direct. Quel spectacle ça pourrait faire! Sauf que là, le conditionnel est en passe de se transformer en futur simple. Effectivement, la NASA travaille sur un vol habité dès 2024 grâce au programme Artemis. Ah, la découverte de l'espace. Ah, l'espace. L'aventure immense qui exhale nos sentiments les plus lyriques.
Bravo les gars! Vous êtes des héros. Maintenant, sortez et posez le pied sur ce qu'on appelle la Lune. Les gars ?
Oui, bah, 2 minutes. Mais putain, ouvre la porte, on en filme. Mais c'est coincé.
C'est coincé, mais tu m'emmerdes.
Mais arrête, mais ouvre pas la porte avec les bonbons d'oxygène.
Bah oui, mais y a pas d'autre moyen.
Sauf si on avait de l'huile de coude. Alors là, je... Ah !
Un problème, Apollo ?
Ouais, y'a Nini, il me tape, donneuse. Attends, ça y est, ça s'ouvre.
Bon. On fait 2-3 petites foulées, on ramasse du terreau et on s'y attend.
C'était un extrait du Palma Show avec Thomas VDB dans le rôle de Houston.
Oui, c'est bon.
Hein, c'est ça, hein ?
C'est vrai.
Alors, je précise que la NASA ne s'embarque pas seule dans ce programme. L'Agence spatiale européenne est également mise à contribution. Didier Gustin, c'est vous qui aviez envie de nous parler d'espace. Il paraît que vous êtes passionné d'astronomie.
Oui, j'aime beaucoup,
Est-ce que vous avez des attentes concernant précisément ce programme Artemis ?
Non, pas du tout, mais je sais que sur la Lune, on essaye, il y a de la rigolite, c'est du... La rigolite, en fait, c'est...
Là, c'est pas un truc pour rigoler, hein.
Qu'est-ce que c'est? C'est marrant, parce que quand dès que tu commences à parler sérieusement, après, on lâche. Mais tu vois, si tu le fais avec Jean-Claude Van Damme, là, il y a de la rigolite. Et la rigolite, c'est quoi? C'est de la poussière. La poussière. C'est la poussière de la Lune. On the moon. Parce que la lumière de la Lune... Mais 3 secondes pour venir jusqu'à mon œil, lies.
Ouais.
On suit, hein, on est avec vous, Didier.
Ok.
Hein.
Et la rigolite, c'est la poussière de la Lune. Il y en a beaucoup en hauteur.
Ouais. Non, mais c'est pour
épaisseur,
de vrai.
Épaisseur.
Ouais, on ne sait pas si c'est pour
et
de vrai.
Et avec ça, si tu prends la rigolite, tu la masses, tu fais des trucs. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font de l'oxygène.
Ah!
Et ouais.
Mais ça, c'est pour de vrai.
Et c'est pour de vrai.
On fait de l'oxygène avec de la rigolite?
Ouais.
Ok.
On fait de l'oxygène avec de la rigolite.
Et donc, ça serait en partie pour ça qu'il y aurait besoin de retourner à nouveau qu'il y ait des êtres humains.
Parce qu'on pourrait, il y aurait de la place, il y aurait de quoi respirer pour tout le monde. Hein.
Ok.
Attendez, mais ça change tout, ça.
Mais
du coup, on en a rien à foutre du réchauffement climatique.
Mais oui.
Allez.
Tous sur la Lune.
Allez, on achète des 4x4, là. On y va.
Ils ont appelé donc ce programme Artemis. Artemis, c'est une déesse grecque. Ouais. Et à l'origine, c'est une déesse qui est restée vierge et sauvage.
Enfin.
C'est les textes.
Ah bon.
Est-ce que vous ne trouvez pas ça... est-ce que c'est pas parfaitement contradictoire de vouloir à nouveau envoyer des hommes marcher sur Mars, d'appeler ce programme sur la Lune, d'envoyer et de fabriquer un programme qui s'appelle Artemis, avec une déesse qui justement a pour particularité d'être restée sauvage, inexplorée?
Ah oui, bah c'est en même temps, c'est quand même oui,
alors que c'est pas inexploré à la Lune. On est déjà allé une fois. C'est déjà
plusieurs fois,
c'est un beau bordel maintenant, il y a des trucs plein là-bas.
Ils ont laissé traîner des trucs.
Oh là là, personne n'est reparti. Allez, ton rover là, bah tu le ramènes, Robert.
Bah ouais, maintenant tout est en bordel là-haut.
Ouais, tout est en bordel là-haut. Bah oui, vous avez raison, c'est quand même
mais
pas bien de
vous la regardez la Lune régulièrement, les étoiles, la Lune. Non, mais ça, c'est une chose qui vous touche, c'est bien ça.
Écoutez, avec Carla, je dois dire qu'on regarde la Lune.
Du coup,
très
je sais pas.
Du coup, on ne saura jamais si vraiment c'est une chose qui vous passionne. Vous...
Ah, mais j'adore tout ce qui est stellaire, tout ce qui est. Mais je m'intéresse aussi au forage, tout ce qui est aussi exploration des sous-sols. Par exemple, comment elle s'appelle, Anne Hidalgo, et ses sondages. Il paraît que les gens, ils cherchaient ces sondages, ils sont tombés sur du gage de schiste.
Donc, si je vous demande.
Ça compte un temps de parole de qui, parce que
je sais pas, mais c'est vrai. Pardon,
Tout le monde y est. Tout le monde.
C'est ma faute.
Bah voilà.
Pardon. Pas...
Vous espérez de voir ça de votre vivant, des hommes arrivés sur Mars?
Non, moi ça m'a... en fait ça m'a... Mars m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse plus, c'est plus l'astrophysique. Je préfère en fait les planètes, les et la vie plus loin, ou comment le notre univers est constitué, ou est-ce qu'il y a d'autres univers à côté. Ça m'intéresse plus en fait. C'est plus ou alors que regardez, il y a un petit caillou, allez voir. Et les mecs, regardez, ils vont sur Mars. Et mecs, venez. On a 3 ans de voyage. Hein. Putain, on arrive. Alors tu vois quoi? Écoute, je crois qu'il y a un fossile. Ah non, excuse-moi, c'est moi.
Et voilà, l'astrophysique du Pardi Dégustin. Et Juliette Arnaud. Thomas VDB, dites-moi.
Oui, je vais tout vous dire.
Ouais, je veux dire un petit peu d'actualité là. Mais,
comme vous saviez, ce week-end, c'était le grand meeting du candidat Emmanuel Macron. Et bon, c'est vrai qu'on a bien senti que ce meeting avait aussi pour but d'enterrer l'affaire McKinsey. Mais personnellement, il y a une chose dont je voulais vous parler cette semaine. C'est l'affaire McKinsey. Voilà. Et, parce que, pardon, mais pendant la pandémie, c'est vrai que si t'avais le malheur de dire, c'est quand même un peu chelou la façon qu'ils ont géré cette crise. Bah, direct, tu te faisais traiter de complotiste. Et là, on apprend que c'est pas eux qui l'ont géré. Ah ben, il y avait bien un truc chelou. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'il faut relativiser, parce que oui, les ministres, ils payent des gens pour faire le boulot à leur place, mais ils sont quand même hyper occupés. Marlène Schiappa, elle a quand même écrit 10 livres depuis son entrée au gouvernement, sans cabinet de conseil. Comment auriez-vous voulu qu'elle trouve le temps de les écrire, ces 10 livres? Déjà que personne n'a vraiment le temps de les lire. Bon, alors... On va quand même pas s'étonner que nos ministres soient des assistés, puisque même disent depuis des années qu'on est dans un pays d'assistés. Faut arrêter de faire les étonner, quand même. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant, ça permet de découvrir un peu l'envers du décor, cette affaire, de voir comment ils travaillent les ministres. Je me dis, on pourrait presque en faire une émission de télé. Ça, après Cauchemar en cuisine, Super Nanny, voici Ministre en détresse. Ils sont 16 ministres et ils n'ont pas le niveau. Pendant 6 mois, nos experts vont les aider à redresser le pays. Voilà, c'est vrai, les gars, ils font des études dans des grandes écoles pour entrer au gouvernement, et une fois qu'ils y sont, ils sont là. Alors, qui je vais téléphoner pour faire tout le boulot, moi, maintenant? Ça se trouve, à l'ENA, les profs, ils disent, alors, aujourd'hui, on va étudier les cabinets de conseil, ouvrons notre annuaire, page 124, tout simplement. Moi, je me demande à quoi ça sert de continuer à se former à des métiers. Parce qu'à ce moment-là, moi, je dis que je suis ingénieur. Et quand on m'embauche, bah, j'appelle McKinsey, je dis, ouais, les gars, je suis dans la merde. J'ai dit à un gars que j'étais ingénieur. En fait, c'est pas faire du tout, j'aurais bien des conseils. Mais le vrai mystère de cette affaire pour moi, c'est pourquoi quand les gens de ces cabinets, ils annoncent leurs tarifs, leurs interlocuteurs ne les griffent pas au visage. Parce qu'on a vu les prix qu'ils pratiquent, les gars de chez McKinsey, ils n'ont aucune marque de coup, pas d'hématome, il n'y a aucune griffe au niveau du faciès. Normalement, une personne qui t'annonce des prix pareils, t'as envie de lui éplucher la peau comme une mandarine, normalement. Ils sont là, ils sont indemnes. Et en fait, je me demande si c'est pas une technique marketing que ce soit aussi cher. Parce qu'on dirait que les gars, ils fixent leur prix en se disant, bah, si c'est méga cher pour les gens, ça veut dire qu'on est méga bon. C'est un gage de qualité. Comme ça, Macron, il pourra aller voir ses potes et dire, j'ai trouvé des conseillers, mon gars, c'est des pros. Vu comment on se fait niquer sur les prix, c'est des cracks, vraiment des cracks. Alors évidemment, du côté des citoyens, ça chouine. Bah oui, mais en plus, ils font de l'optimisation fiscale. Bah encore heureux qu'ils font de l'optimisation fiscale. Attends, les cabinets qui paient leurs impôts plein pot, ils se font dégager au premier tour. Bah oui, évidemment, les gens, ils sont là-bas, attends, ils payent leurs impôts en France. Ah, les gros nus. N'empêche que Macron, il agace toujours à cause de son côté sûr de lui. Alors qu'en fait, c'est même pas des idées à lui dont il est sûr, c'est des idées de McKinsey. C'est fou, hein. Les grandes idées de son quinquennat, on croit que c'est lui, mais ça se trouve, c'est tout McKinsey. Croquignolesque et Perlin Papin, c'est peut-être eux qui ont dit ça à Macron. Ça tombe, c'est peut-être eux qui ont dit à Benjamin Griveaux, on a un conseil à te donner. Tu prends ton smartphone, tu le mets en mode appareil photo, et bon, la suite est entrée dans la légende. Bon, en même temps, je me dis, c'est cool, la vie pour les mecs qui sont conseillers dans les cabinets. Parce qu'ils l'ont bien dit que c'est pas eux qui prennent les décisions finales. Les gars, ils sont juste payés hyper cher à pas prendre de décision. Je sais pas s'il y a un métier qui consiste à plus à ne pas se mouiller. Vraiment, c'est un mélange de métier et de caouet. Vraiment, c'est un mélange des deux. Moi, personnellement, j'aurais du mal à faire confiance à un mec qui a décidé de faire son métier le fait de donner des conseils. Parce que s'il y a bien des gens dont je me méfie, c'est les gens qui ont trop la confiance. Pour vous donner une idée, mon psy est bègue. Voilà, donc, moi, quand j'ai un problème, je préférerais un cabinet à la rigueur avec des gens qui doutent avec moi, des cabinets de perplexité. Là, j'ai bien, là j'adhère. Mais tout le monde en veut à Macron d'avoir utilisé ses cabinets, et c'est con parce que finalement c'est lui la première victime. Il aurait dû en profiter à fond et prendre du plaisir, prendre 100% des décisions lui-même. Parce que président de la République, c'est qu'une fois dans une vie. Et je rappelle, seulement pendant 5 ans.
Thomas VDB, merci Thomas. On peut réécouter et même réécouter toutes vos chroniques en podcast, bien sûr.
Tout à fait, en podcast.
Didier Gustin, abordons cet autre thème, puisque l'intelligence peut presque tout faire. Elle peut imiter une voix à la perfection. Si imiter est un art chez l'homme, c'est c'est aussi un pouvoir, surtout quand l'intelligence artificielle tombe entre de mauvaises mains. Elle a déjà permis un gros braquage en 2020 aux Émirats Arabes Unis avec un transfert de 35 millions. Le banquier a reconnu la voix ou cru reconnaître la voix d'un de ses fidèles clients. Comme il existe des deepfakes, il existe des deep voice, et ça depuis toujours.
Bonjour messieurs, vous vouloir quelque chose?
Nous vouloir vin rouge.
Eh bien sûr monsieur, avec plaisir, vin rouge.
Vous aviez raison chef, c'est une belle ordure. Hein.
Vous foutrez aussi à manger? Pour quatre!
À manger pour quatre?
Vite, vite, on est pressé!
On est vachement plus vite servi comme ça, chef.
Ça, c'était la méthode artisanale dans Mais où est donc passé la 7e compagnie de Robert Lamoureux. Il y a un article du site Numérama, magazine online des nouvelles technologies, qui nous parle de Deep Voice, où l'intelligence artificielle permet des attaques par la voix quasiment.
C'est ouf. Hein.
Est-ce que l'imitation, c'est un pouvoir?
Oui, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Si on commence à prendre la voix des gens pour aller se vider leur compte bancaire.
Hey Robert, c'est moi. Ouais. Bah tu balances tout sur le compte de ma femme.
Est-ce que vous vous en êtes déjà servi?
Est-ce que je m'en suis déjà
servi? De manière frauduleuse.
Pour réserver au restaurant, c'est pas mal.
Ah ouais, vraiment?
Oui. Allô, bonjour. Oui, une petite table, s'il vous plaît, Nicolas.
Oui, mais après, vous arrivez.
Après, quand le gars il arrive, il dit ah bah c'était Didier Gustin quand même.
Tu dis que c'est pas toi qui réservé.
Tu dis
non mais il va venir.
Ouais, il est en retard, il arrive, etc.
Potentiellement, ce serait la voix de Nicolas Sarkozy qui permettrait de réserver plus facilement une table.
Mais je me souviens un jour, j'avais fait une blague à Enrico Macias. J'avais appelé avec la voix de Raymond DeVos à l'époque. Il était.
Ouais, ça marcherait moins aujourd'hui.
Oui, je sais. Ouais. Mais bon, c'est vous comprenez. Ouais. Et je raconte. Et je dis, monsieur Macias. Oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce que vous avez fait une chanson qui s'appelle Le Vent du Sud. Oui, c'est vrai. Alors voilà, vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone déjà. Oui, bien sûr. Alors, vous avez une chanson qui s'appelle Le Vent du Sud. Je vous propose d'aller chez Chancel. Vous serez assis, on sera assis dos à dos. Et puis, la caméra fera le tour autour de nous, comme là. Et vous chanterez la chanson et moi, je ferai un texte sur le Vent du Sud. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais vous dire, monsieur DeVos, c'est incroyable ce que vous arrivez à faire avec un mot.
Mais il a dû être déçu, du coup, que ce soit pas vrai.
Non, après, il est venu dans l'émission. Ah bon. Et on lui a dit que c'était une blague. Enfin, voilà. Bon, j'ai arrêté.
Vous avez tout à fait illustré, justement, ce dont on parlait. Mais bien sûr. Et de façon naturelle, cette fois. Tout aussi naturellement, on voudrait vous proposer de jouer dans un sketch, Didier Gustin.
Oui, bien sûr. Donnez-moi le test.
Oui, parce que, en ce moment, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo sont à la traîne dans les sondages.
Qui?
Valérie Pécresse et Anne Hidalgo.
Ah oui, d'accord.
Donc
on a
donc imaginé que désespérées, elles en étaient arrivées à faire appel aux anciens présidents défunts. Vous serez à la fois Jacques Chirac et François Mitterrand. Charline sera Valérie Pécresse, Guillaume de Gaulle carrément, et moi Anne Hidalgo.
D'accord.
Mais Anne, on fait quoi dans la forêt?
Écoute Valérie, toi et moi, on est pareil.
Ah, persévérante, travailleuse.
Non. À la rue. Alors il faut qu'on fasse appel à nos morts pour nous aider à gagner.
Ah oui, on va faire voter les morts, excellente idée.
Non, on va demander des conseils aux présidents qui sont décédés. Esprit de la République, es-tu là?
Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes.
Mais qu'est-ce qu'on fait là?
Qui nous dérange, hein?
Alors, chers anciens présidents, nous voulions savoir si vous pouviez nous aider pour notre élection.
Écoutez, si c'est l'élection de Miss Camping, j'ai ma petite expérience.
Et donc, pas de bol, Valou, ton président est vraiment lourd, hein?
Mais elles ne veulent pas faire Miss Camping. Elles peuvent pas, elles sont trop vieilles.
Sérieusement?
Calmez-vous, messieurs, et écoutons ce que vous avez à nous demander.
Oui, donc nous sommes candidates pour une élection politique, comme vous l'aviez été à une certaine époque.
C'est quoi les cantonales?
Non, c'est pas les cantonales, non.
Ah, c'est quoi? C'est les régionales, alors?
Non, c'est la présidentielle.
Ah, sérieusement?
Bah oui.
Ah putain. Et vous y allez pour quel parti?
Alors moi j'y vais pour les Républicains.
C'est quoi les Républicains? Les Républicains, c'est le nom qu'on a donné à l'UMP après l'affaire Big Malian.
Et l'UMP, c'est le nouveau nom qu'on avait donné au RPR après les emplois fictifs.
Ah là, et le RPR, c'est...
D'accord, je vous ai compris.
Et donc le problème, c'est que je suis cinquième, moi, dans les sondages. Hein,
Le RPR est cinquième. Ah, vous êtes vraiment mauvais à droite.
Oui, je crois que c'est pas beaucoup mieux pour vous, François. Hein.
Ah bon? Bah ouais, parce que moi, je suis qu'à 2%.
2% du second tour?
Non, à 2% d'intention de vote.
Alors là, vous êtes vraiment, vraiment mal.
Mais vous pouvez faire quelque chose pour nous aider?
Écoutez, en 95, j'ai gagné en disant manger des pommes. Eh bien, vous pouvez dire... Manger des carottes.
Oui, enfin là, je crois que les carottes sont cuites.
Merci, Didier Gustin.
C'était pas le vrai général de Gaulle, c'était
ouais,
moi.
C'était
bien. Oui, parce que les gens vont se dire, bah, tiens,
évidemment.
C'est bizarre,
mais... Non, mais il le fait bien.
Ouais. Didier Gustin, merci beaucoup.
Merci
je rappelle
à
qu'on
tous.
Peut vous voir dans la pièce Les Cachotiers, qui est en tournée partout en France. Il paraît qu'il y a plus de 100 dates prévues.
Oui, ça marche
saison.
très bien.
La saison 2022-2023, et notamment le 30 avril à Lens, ou le 30 mai à Rodez, le 4 juin à Dieppe, Didier Gustin. Merci encore.
Merci à vous tous.
C'est la fin de l'émission et demain, nous recevrons l'artiste Sophie Calle.
Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le démarreur.
Ah bah oui.
Non, c'est ça.